voit effectivement un désir des pays et des entreprises étrangères de renforcer la résilience de leur chaîne d'approvisionnement en se diversifiant sur d'autres marchés. Donc cela va aller dans des pays proches des points de consommation ou alors vers des pays qu'on considère comme amis.
Bonjour à tous et bienvenue dans Trade Talk, le podcast pensé pour aider votre entreprise à se développer sereinement. Alors aujourd'hui, nous nous intéressons à la Chine. Les portes de ce poids lourd de l'économie mondiale se sont rouvertes après une longue fermeture liée à la crise sanitaire. Quelles séquelles cela a-t-il laissé ? Dans un contexte géopolitique mouvementé, où en sont les relations avec les puissances occidentales et la Russie? Dans quelle situation économique, sociale et politique se trouve le pays? Évidemment, on cherchera à savoir quelles sont aussi les répercussions sur les opportunités en termes de business. Pour cela, nous retrouvons Eve Barré, économiste, et Raphaël Rousselot, directeur de la souscription pour la région Asie-Pacifique, tous deux chez Coface. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Ingrid.
Hello Ingrid.
Alors Eve, pourriez-vous nous décrire la situation économique de la Chine à l'heure actuelle ?
L'économie chinoise, elle se redresse encore après le choc qu'a été la pandémie. La politique zéro Covid avait fortement contraint la consommation et cela était venu s'ajouter à l'effet de mesures gouvernementales qui allaient vers davantage de régulation dans des secteurs tels que le logement, la technologie ou l'éducation. Et donc la suppression des restrictions liées à la politique zéro Covid a globalement été considérée comme positive pour l'économie chinoise. Et à raison, puisque dans les premiers mois qui ont suivi la fin de cette politique zéro Covid, l'activité économique en Chine et particulièrement dans le secteur des services a connu un fort rebond. En effet, dans les deux premiers mois de cette année, donc de l'année 2023, la production industrielle a augmenté de 2,4% en glissement annuel, les ventes au détail ont augmenté de 3,5% et la croissance de l'investissement fixe a été supérieure aux attentes avec une croissance de 5,5%. Donc on peut dire que la croissance chinoise post-Covid a été plus précoce que prévu. Sur le plan politique, le président chinois Xi Jinping a pu renforcer les fondements de son pouvoir en plaçant des personnes connues pour leur loyauté à son égard à des postes économiques clés dans le gouvernement, comme par exemple le nouveau premier ministre Li Qiang.
Raphaël, après la réouverture de leur économie et de leurs frontières, de nombreux pays, qu'ils soient d'ailleurs émergents ou développés, ont connu un effet de rattrapage économique. Est-ce que c'est le cas pour la Chine ?
En Chine, nous avons les capacités de suivre les tendances de l'activité économique et commerciale presque en temps réel, grâce à nos données internes. En regardant, par exemple, combien de fois les clients demandent des couvertures pour se protéger d'un défaut de paiement et l'évolution de ces demandes dans le temps, nos données ont notamment montré que la demande pour les produits alimentaires dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration ont augmenté. D'autres secteurs, comme celui du transport aérien, ont également profité de la fin des restrictions sanitaires. Néanmoins, nous constatons que les populations restent préoccupées par le chômage et le coût de la vie, ce qui peut affecter leur confiance à court terme.
Est-ce quelles sont les perspectives économiques pour le pays à court et puis aussi à moyen terme ?
Malgré donc ces développements positifs que je mentionnais tout à l'heure, les perspectives économiques de la Chine restent délicates à court et moyen terme. Le pays est confronté à de nombreux obstacles, notamment la faiblesse des dépenses des ménages, le déclin du marché immobilier et des difficultés financières pour les gouvernements locaux. Pour cette année 2023, le gouvernement central a défini un objectif de croissance du PIB d'environ 5%. Et le Premier ministre Li a déclaré que la réalisation de cet objectif n'était pas une tâche simple et qu'elle allait nécessiter des efforts redoublés. Donc en fait, la capacité à dynamiser la consommation et à stabiliser le marché immobilier sera vraiment un facteur clé pour un rebond économique robuste. Et donc nous, chez Coface, on prévoit une croissance pour l'économie chinoise comprise entre 4 et 5% pour cette année.
Alors on va s'arrêter un peu sur ce marché immobilier. Comment les choses ont-elles évolué ces derniers temps ? Est-ce que le secteur est sous contrôle ?
L'annonce en novembre d'un plan de sauvetage en 16 points présenté par la Banque centrale et les acteurs du secteur de la banque et de l'assurance représente le changement le plus important dans la politique de logement depuis 2016. Cette annonce, elle marque un message clair, c'est que la gestion du risque et le rétablissement de la stabilité du marché immobilier sont des priorités politiques en vue de poursuivre cette recherche de stabilité économique. Les mesures les plus significatives de ce plan sont celles qui s'attaquent aux problèmes de financement des promoteurs immobiliers. Bien que le marché de l'immobilier reste quand même sous pression, il faut le dire, on voit une certaine stabilité s'installer ces derniers mois. Par exemple, l'indice du climat du secteur immobilier a cessé de baisser, la baisse des prix des logements a ralenti en février, ainsi que d'autres indicateurs du logement comme les ventes et les investissements immobiliers qui semblent également atteindre un plancher. Néanmoins, un fort rebond de l'activité immobilière comme celui qu'on avait pu connaître en 2015 semble très improbable, d'autant plus que le ralentissement structurel de la demande de logement en Chine reste une contrainte majeure pour le secteur.
Raphaël, quelles sont les principales opportunités commerciales en Asie ? Est-ce que des secteurs d'activité en particulier pourraient bénéficier de la réouverture économique ?
L'Asie, dans son ensemble, bénéficie du retour des touristes chinois, en particulier les économies d'Asie du Sud-Est, comme les Philippines ou la Thaïlande, où le tourisme représente plus de 15% du PIB. Dans ces pays, la reprise du tourisme aura des effets positifs sur le marché du travail, soutenant ainsi la consommation intérieure dans le secteur de la vente. Pour les industries manufacturières, avec des économies exportatrices comme la Corée du Sud ou le Japon, la situation est plus nuancée, la reprise chinoise ne pouvant à elle seule compenser le ralentissement actuel du commerce mondial.
Indépendamment de cette reprise post-Covid, quels sont les autres secteurs porteurs en Chine pour les années à venir ?
La population chinoise vieillit et d'ici 2040, environ 400 millions de personnes, soit 30% de la population, auront 60 ans ou plus. Cela signifie qu'il y aura des opportunités dans le secteur de la santé, pour les services médicaux et pharmaceutiques ou pour les médicaments assurés par l'État. Le secteur des technologies de l'information et de la communication offrira également des opportunités commerciales dans les années à venir. Les politiques du gouvernement chinois visent à accélérer l'autosuffisance en matière de haute technologie grâce à des incitations fiscales et à des aides au financement. Les entreprises chinoises sont aujourd'hui encouragées à investir dans la R&D, dans des domaines tels que l'intelligence artificielle ou les puces électroniques. Les énergies vertes bénéficient également d'un fort soutien public, qu'il s'agisse des véhicules électriques ou des énergies renouvelables. Mais quel que soit le secteur, les opportunités de marché pour les entreprises étrangères pourraient être limitées, d'une part par les sanctions des économies occidentales et d'autre part par la réglementation chinoise elle-même. Sur ce second point, les dernières communications de la Chine ont été plutôt rassurantes pour les entreprises étrangères. Le gouvernement a souligné que la Chine devait élargir l'accès au marché et faciliter le commerce en supprimant certains contrôles gouvernementaux.
Eve, sur le plan politique, quelles leçons peut-on tirer du dernier congrès du Parti communiste chinois et puis de ce revirement assez majeur sur la politique anti-Covid ?
Le 20e congrès du Parti communiste chinois, qui s'est tenu en octobre dernier, marque vraiment la consolidation du pouvoir de Xi Jinping et il marque aussi une rupture constitutionnelle. Donc Xi Jinping a obtenu un troisième mandat en tant que secrétaire général du Parti communiste chinois et également un troisième mandat de président de la commission militaire centrale. De plus, les conventions de transition au sein du parti semble également avoir changé. On a vu que plusieurs membres âgés de 68 ans ont par exemple été promus au Politburo ou alors ont vu leur statut de membre du Politburo prolongé. Et on a aussi vu que, contrairement à ses prédécesseurs, le nouveau Premier ministre Li Qiang n'a jamais été Premier ministre par le passé et n'a pas non plus d'expérience de gouvernement au niveau national, ce qui est inédit. Quant à la décision d'abandonner la politique de zéro Covid à la fin du mois de novembre dernier. Elle a été soudaine, elle a été inattendue et sans préparation. Elle fut prise principalement parce que les incitations politiques à maintenir cette politique étaient réduites, que les coûts économiques étaient prohibitifs, qu'il était devenu de plus en plus évident que cette politique était inefficace face au variant Omicron qui est hautement transmissible. Et enfin, les protestations de la population ont incité les dirigeants chinois à changer de braquet. Donc la leçon qu'on peut retirer de ce revirement soudain révèle que les dirigeants gardent toujours un côté pragmatique et ce revirement témoigne de leur flexibilité en termes d'orientation stratégique.
Alors, quelle est la situation sociale aujourd'hui ? C'est vrai qu'on se souvient que les mesures de contrôle strictes, les fermetures, les tests de masse ont engendré beaucoup de tensions au sein de la population. Il y a d'ailleurs eu des manifestations dans plusieurs villes à la fin de l'année 2022. Est-ce que la situation est plus apaisée ?
Après les manifestations anti-Covid de la fin de l'année dernière que vous mentionnez et la levée des restrictions, aucune protestation n'a été signalée et donc la situation sociale est plus stable en Chine et les voyageurs chinois commencent d'ailleurs à aller à l'extérieur du pays.
Raphaël a mentionné un taux de chômage élevé. Quelles sont les perspectives sur ce plan-là ?
Pour ce qui est de 2022, la Chine a rempli ses objectifs en termes de marché de l'emploi avec un taux de chômage de 5,5% et la création de 12 millions d'emplois dans les villes, et ce malgré un environnement économique et sanitaire difficile. Pour cette année 2023, la stabilisation de l'emploi reste une priorité pour le gouvernement. Cependant, le chômage des jeunes reste très élevé et il a même augmenté en ce début d'année. Donc, en effet, le taux de chômage pour les jeunes a atteint 18,1% en février, ce qui est un taux trois fois plus élevé que le taux de chômage urbain global en Chine qui s'est élevé à 5,6%. Et c'est aussi nettement plus élevé que le taux moyen de l'OCDE qui s'établit à 12,8%. En plus, on sait que 11,6 millions de diplômés devraient rejoindre la population active chinoise cette année, ce qui est un nombre record. Et autre problème également en termes de marché de l'emploi, c'est que les secteurs du numérique, de l'immobilier et de l'éducation qui sont traditionnellement connus pour embaucher de nombreux jeunes diplômés, sont actuellement sous pression après des réglementations strictes qui ont entraîné des licenciements et une forte réduction de l'activité. Donc la tâche pour le gouvernement en termes de marché du travail reste épineuse actuellement.
Alors, la crise sanitaire a mis en évidence la très forte dépendance de certains pays vis-à-vis de la Chine. Certains pays développés montrent maintenant une vraie volonté de s'affranchir de cette dépendance. Est-ce que ça, c'est un risque pour l'économie chinoise ?
La Chine est très intégrée dans le commerce mondial et au cours des deux dernières décennies, elle s'est érigée comme l'usine du monde. Le pays joue un rôle primordial dans les chaînes de valeur mondiales et comme vous l'avez souligné, la pandémie de Covid-19 a mis en évidence l'interdépendance du marché mondial. Comme vous l'avez dit, on voit effectivement un désir des pays et des entreprises étrangères de renforcer la résilience de leur chaîne d'approvisionnement en se diversifiant sur d'autres marchés. Donc cela va passer soit vers aller dans des pays proches des points de consommation ou alors vers des pays qu'on considère comme amis. Donc c'est ce qu'on va appeler le nearshoring ou alors dans le second cas le friendshoring. Cette tendance elle devrait se poursuivre dans les années à venir et elle représente forcément un risque pour la croissance chinoise. Après, les dirigeants chinois en ont conscience et c'est pour ça qu'ils ont développé une stratégie de ce qu'ils appellent de double circulation. Et dans cette stratégie, l'amélioration de la demande intérieure est un point clé pour la croissance future. Alors cela ne veut pas dire que la Chine se replie sur elle-même en abandonnant le commerce extérieur, mais simplement elle reconnaît que les marchés extérieurs puissent ne pas apporter les mêmes niveaux de croissance que par le passé.
Raphaël, il y a quelques années, se développer en Chine, c'était vraiment un passage obligatoire pour les entreprises. Est-ce que certaines s'en détournent aujourd'hui, cherchent plutôt à se diversifier ?
Oui, les acteurs mondiaux diversifient leur chaîne d'approvisionnement afin de réduire leur dépendance vis-à-vis de la Chine. Des multinationales comme Apple, Sony, Samsung, Nike ou Siemens, pour ne citer quelques-unes, elles ont déplacé certaines de leurs chaînes de production de la Chine vers le Vietnam, la Thaïlande ou la Malaisie. L'Inde, dont l'économie croît rapidement, est une alternative également logique avec une main-d'œuvre qui est jeune, peu qualifiée et moins coûteuse que la Chine. Toutefois, la délocalisation d'unités de production n'est pas motivée uniquement par des considérations économiques, C'est aussi le résultat des tensions commerciales actuelles entre la Chine et les États-Unis et des risques géopolitiques croissants dans la région Asie-Pacifique.
Justement, chez Coface, vous constatez une augmentation des demandes de protection liées aux risques et à la géopolitique en Asie, et plus particulièrement en Chine ou pas ?
Les entreprises exportatrices qui sont nos clients bénéficient via nos services de couverture contre les événements politiques. C'est pourquoi nous ne constatons pas une augmentation des demandes spécifiquement liées aux risques politiques. Cependant, il est vrai que si cela a toujours été un sujet pour les gestionnaires de risques, nous voyons désormais que l'incertitude politique est une des principales sources de préoccupation pour les sociétés. Ce n'était pas le cas il y a quelques années.
Eve, comment est-ce que les relations sino-américaines et européennes ont-elles évolué ces dernières années ? On sait bien sûr que le contexte a beaucoup évolué avec le conflit en Ukraine, avec la récente visite aussi du président chinois en Russie.
Les relations entre la Chine et les États-Unis ont connu des tensions ces dernières années et l'invasion de l'Ukraine par la Russie a aggravé davantage les relations bilatérales. En fait, les États-Unis sont préoccupés par un certain nombre de questions concernant la Chine. Ça va de l'espionnage industriel aux violations des droits de l'homme, en passant par l'avenir de Taïwan. Mais l'un des principaux sujets de crainte pour les États-Unis est le fait que la Chine est en train de combler le fossé économique, le fossé industriel et technologique. La détérioration des relations entre les deux pays a contribué également à creuser l'écart idéologique entre les deux puissances, tout en permettant à la Chine d'approfondir ses liens avec la Russie. Concernant l'Union européenne, les relations entre l'Union et la Chine n'ont cessé de se détériorer également ces dernières années, avec des tensions croissantes sur fond de sécurité et de commerce. Aucune des deux parties ne semble vraiment avoir établi de stratégie pour traiter avec l'autre. Dans le contexte de confrontation géopolitique actuelle, un apaisement des relations apparaît compliqué. La Chine voit l'Europe comme un pilier essentiel contre l'émergence d'un front occidental uni et souhaite pour cela développer des liens économiques, technologiques et politiques plus étroits avec elle. Mais dans le même temps, les dirigeants chinois n'ont pas pris de mesures claires et concrètes pour améliorer ces relations. Donc dans le contexte actuel et dans un avenir proche, il est difficile de voir un véritable renversement de ces fragmentations géopolitiques.
Alors pour les entreprises étrangères, quels sont les risques et les opportunités que le pays représente sur le plan commercial ?
L'objectif premier du Parti communiste chinois a toujours été de maintenir un monopole du pouvoir au sein du pays. Et aux yeux du parti, il est important de maintenir deux volets qui sont d'un côté le contrôle et de l'autre la croissance. Ces deux volets peuvent être en tension, mais ils sont aussi complémentaires dans une certaine mesure. La tendance aujourd'hui est pour de plus en plus de contrôle. La Chine tend également à promouvoir son industrie nationale plutôt que de dépendre des importations et des technologies étrangères, une autonomie qui est d'ailleurs n'est pas du goût des États-Unis. Toutefois, à court terme, la Chine elle reste assez dépendante, on doit dire, des importations et des technologies étrangères. Donc, en fait, pour résumer, la Chine souhaite être autonome, mais elle reste interdépendante du reste du monde. Et cela se reflète notamment dans l'absence de fortes représailles de sa part à l'encontre des entreprises américaines ou étrangères. Donc, la Chine reste un marché important, un marché vaste pour les entreprises étrangères et ses chaînes d'approvisionnement industriel restent étendues et elles sont difficiles à remplacer rapidement. Donc à court terme, même si l'environnement réglementaire devient de plus en plus difficile et incertain, les entreprises étrangères ont encore la possibilité de faire des affaires en Chine.
Raphaël, tout à l'heure, on a parlé des secteurs porteurs. Quels sont, au contraire, les secteurs plus à risque, notamment au regard de ce que Eve vient de nous dire ?
Les industries les plus à risque sont celles qui dépendent de matières premières. Elles continueront à être confrontées à des difficultés car les prix restent au-dessus des niveaux pré-pandémie. Au cours des derniers mois, nous avons constaté une augmentation des défauts de paiement et des faillites d'entreprises en raison de la volatilité des prix de l'énergie qui affecte les marges et les trésoreries des entreprises. Certaines entreprises du secteur des nouvelles technologies sont également en difficulté en raison de la baisse de leurs ventes. En effet, il y a une demande mondiale plus faible pour les biens d'électronique grand public. Les PME qui sont pleinement intégrées dans la chaîne d'approvisionnement de ce secteur et qui ont accumulé des dettes pour survivre à la pandémie sont challengées là encore. Nos données font état d'un plus grand nombre de retards de paiement. Enfin, certaines entreprises de haute technologie pourraient faire l'objet de sanctions de la part du ministère américain du Commerce. Nous avons constaté avec l'exemple de Huawei que la restriction de l'accès aux semi-conducteurs ou aux technologies clés a eu un impact substantiel sur leurs revenus et leurs bénéfices. Dans l'ensemble, le niveau d'incertitude est donc élevé. L'inflation perdure, la demande extérieure est faible, les marges des entreprises sont comprimées et le risque politique ne disparaîtra pas et accentue la volatilité du marché. Donc, compte tenu de cet environnement de risque, nous sommes convaincus que les entreprises doivent renforcer leur politique de gestion des risques de crédit.
Eve, Raphaël, merci beaucoup pour ce décryptage sur un pays qui demeure évidemment stratégique.
Merci Ingrid, au revoir.
Merci Ingrid.
C'était Ingrid Labuzan, journaliste pour COFACE. À bientôt pour un prochain podcast. En attendant, retrouvez l'intégralité des analyses de risques pays et secteurs de COFACE sur COFACE.com.